Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et pour m'accompagner, comme chaque vendredi, ou presque, mon cher et tendre Maxime Dupuis, comment ça va ?
Ça va, Martin. Et toi ?
Écoute, ça va.
Ouais, c'est avant le week-end de 3 jours.
Ouais, moi je travaille, mais toi, comme d'habitude, tu travailles pas. Voilà, moi je travaille demain, 16h, l'exploitation du petit personnel, des petites mains.
Donc il y a besoin de moi en semaine, tu vois, pour responsabilité, tu vas prendre des décisions.
Bah, par exemple, prendre les décisions de faire bosser les gens le week-end.
Ah non, mais c'est plus moi, ça. Je ne décide plus de ça. Parce que si c'était moi, vous seriez beaucoup plus à bosser le week-end.
Oui, ça m'étonne pas.
Je crois qu'Adrien, qui réalise, nous a dit les gars, vous n'êtes pas obligés de faire long pour l'intro.
Ouais.
En gros.
Il veut se barrer.
Lui, il a envie de se barrer.
Ouais, dans une heure, j'ai un call. Dans une heure et demie, je dois manger mon flan à la boulangerie.
Ça va être un carnage. Je vais aller manger avec tes potes.
Exactement.
Voilà. Donc, on va faire long.
Long. Et surtout, on va ne parler de rien.
À rien, voilà. Ça, on sait très bien faire. Ouais. Voilà, parce que je sais que là, il est en train de compter les minutes. Il est en panique. Il se dit, mince, il y a le call qui arrive.
Ouais,
peut-être un call porteur, tu vois. Donc, il espère que ça va fonctionner.
Call porteur. Alors là, il faut expliquer aux gens. Donc, joueur NBA.
Colporteur.
Non.
Ah bah non.
c'est pas un joueur NBA, Colporteur.
Non, Colporteur, c'est du jazz.
Ah mais oui, je confonds avec. Non, il y a pas un porteur.
Bah il y avait Terry Porter. Ah, regretté Terry Porter, mais ça fait 35 ans.
Ouais. Ouais, mais c'est mon âge. Hein.
Oui, il y a d'autres porteurs.
Ouais. C'est
porteur d'eau.
Là, c'est poussif. Donc je pense qu'effectivement, là, il faut arrêter.
Très poussif.
Ah,
mais c'est vraiment le moment, c'est-à-dire que t'as un week-end de 3 jours qui arrive, t'as une espèce de torpeur.
Oui, mais moi j'ai pas de week-end, donc moi il y a pas de torpeur. Il y a pas de porteur, il y a pas de torpeur.
Il y a rien qui, te porte. C'est-à-dire que t'es dans la rédaction, il y a moins de monde. Tu sens que comme une journée un peu estivale, tu vois. Où...
Ouais, mais parle pour toi, hein, parce que moi j'ai beaucoup de taf aujourd'hui et j'en.
Alors, tiens, ça, je pense que ça intéresse les gens qui nous écoutent. Quel est ton métier, Martin?
Alors moi, bah, principalement, j'écris des articles.
Alors, qu'est-ce que tu as écrit aujourd'hui ?
J'ai écrit un article sur Léon Marchand qui a fait une très grande course 50 yards lors des finales NCAA.
Très bien.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Voilà. Un article sur le maillot arc-en-ciel.
Ok.
Voilà.
Que tu as déjà fini l'article ?
Ah non, je suis en train d'écrire.
Tu es en train de le faire.
Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai énormément de sources. Donc si tu veux, c'est
j'allais
un travail,
dire, c'est déjà fini.
C'est comme le Washington Post. C'est-à-dire que moi, en fait, je fais un travail d'investigation monstrueux.
Ouais.
Sauf que je suis pressé par le temps et par mes managers.
Non mais alors,
voilà.
En fait, je fais toujours. Alors, on t'apprendra qu'il y a toujours besoin d'une deadline, sinon il y a pas de finalité.
Ouais, tout à fait. Mais en fait, si tu veux vraiment tout savoir,
vas-y.
C'est qu'hier, j'ai fait une interview, par exemple. J'étais chez moi à 1h30 du matin pour le site. Mais quand l'inspection du travail écoutera ces podcasts, Maxime, je peux te dire, tu vas claquer des fesses.
Là, ça se voit pas, mais là, j'ai les larmes aux yeux.
Non, mais voilà, je veux dire, à un moment, en fait, pour qu'il y en ait qui se reposent, il faut qu'il y en ait qui bossent. C'est tout le temps pareil.
C'est vrai.
Voilà. Eh ben, je vous laisse deviner qui bosse et qui se repose dans cette émission.
Les exploitants, les exploités, c'est toujours comme ça. Hein.
C'est ça.
C'est ainsi va le monde.
Exactement, ainsi va le monde.
On va parler de football, parce que là, Adrien vient de faire le signe de la montre en touchant son poignet, donc on va quand même y aller, parce qu'on va essayer d'être en revanche très, 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 très long sur les sujets pour tenter de faire de cette émission la plus longue de l'histoire.
Exactement.
Et quelle était, je ne sais pas qui est la plus longue de l'histoire, mais on va essayer de
45-50 minutes.
Eh ben, on va essayer de pousser à une heure pour faire plaisir à Adrien.
Bah oui, après tout, rien, c'est nous les maîtres de l'antenne.
On fait ce qu'on veut. Hein.
Ouais,
tant qu'on a des choses à dire, on les dit.
Exactement.
On va parler évidemment de Marseille-PSG qui sera le temps fort avec le derby du Nord ce soir, enfin vendredi soir pardon, si vous nous écoutez vendredi, vous allez dire c'est ce soir, non vous aurez déjà loupé le match et ce serait bien dommage. Le temps fort ce sera dimanche soir Marseille-PSG avec une seule question, non pas liée à l'intérêt du match, mais est-ce que Kylian Mbappé va rester sur le banc pour ce choc ?
Ensuite on parlera du football au JO et du fiasco qui s'annonce aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On vous expliquera pourquoi.
Et enfin, on parlera du football français. Dans l'équipe datée de jeudi, le président de la DNCG, Jean-Marc Miquelaire, a donné son interview un peu annuelle où il fait toujours le tour des comptes de la Ligue 1.
C'est pas bon.
Et ben, sans trop de surprise, c'est pas très bon. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment pointé quelque chose de très précis. On en parlera dans la troisième partie de l'émission pour justifier, évidemment, selon lui, enfin pas selon lui, que le football français vit un peu au-dessus de ses moyens et en plus ne dépense pas bien son argent.
Ça, c'est ton sujet, Maxime.
J'adore ça.
Bah, t'aimes bien donner des leçons de gestion au football français.
Non, mais ça.
T'aimes bien.
En fait, je me mets à la place des présidents. Je ne comprends pas comment ils font pour vivre dans cette constante fuite en avant. On me dira oui, c'est de l'investissement. Non, c'est pas l'investissement, c'est de la perte. Mais bon, bref.
Premier sujet, Maxime. Marseille, Paris Saint-Germain. C'est dimanche, avant une demi-finale de Coupe de France entre Paris et Rennes. Et on va se poser cette question. Qui paraît complètement surréaliste, hein, si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé sur les deux derniers mois de Ligue 1. Mais est-ce que Kylian Mbappé peut vraiment démarrer cette rencontre sur le banc, comme il l'a fait ces dernières semaines, puisque je rappelle que sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, son temps de jeu moyen est de 49 minutes.
Ça fait peu et ça tranche surtout avec ses deux matchs en équipe de France où il a joué 180 minutes. Ce n'était pas les meilleures 180 minutes non. De sa carrière. En tout cas, il était sur le terrain pendant deux matchs. Alors le souci avec Luis Enrique, c'est qu'il est complètement imprévisible. C'est-à-dire que, est-ce que Mbappé peut être sur le banc au Vélodrome ? La réponse est oui. Sera-t-il sur le banc au Vélodrome ? Je n'en sais rien. Si on essaye de mettre un peu de logique dans ce que fait Luis Enrique depuis l'annonce en interne du départ de Kylian Mbappé, c'est-à-dire que vous avez bien suivi, c'est que depuis que Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain, il joue de manière, on va dire, inconstante en Ligue 1, parfois pas. Parfois, il rentre à la fin, parfois, il sort à la mi-temps. Et tout ça sous couvert du fait qu'il y a des échéances très importantes. Et surtout que le PSG doit apprendre à jouer sans Mbappé. Pour le coup, il y avait 4 mois encore pour y arriver. Mais bon, bref, en tout cas. Alors, si j'essaye d'être logique, dans la logique, entre guillemets, de Luis Enrique.
Donc, logique.
Voilà, je vais essayer de ne pas faire de sentiment. Et quand je dis pas faire de sentiment, c'est-à-dire que oublier que PSG est... C'est un match qui compte énormément aux yeux des supporters, qui compte là, cette année, beaucoup plus sûrement aux yeux des supporters qu'en Ligue 1, puisque la Ligue 1, elle est pliée, que Marseille est très loin, que le PSG sera champion quoi qu'il arrive. Kylian Mbappé vient de jouer 180 minutes avec les Bleus, donc il a fait carton plein. Arrive dans l'ordre l'OM en championnat, Rennes en demi-finale de la Coupe de France, Clermont en championnat, PSG-Barcelone en Ligue des Champions, et on peut même aller un tout petit peu plus loin, le retour Barcelone-PSG, ce sera 6 jours plus tard, et il n'y aura pas de match de Ligue 1 entre les deux, puisque la Ligue a repoussé la rencontre. Si on suivait une logique un peu linéaire ou sinusoïdale de Luis Enrique, moi je dirais qu'il devrait mettre Mbappé sur le banc. Parce qu'en le mettant sur le banc, il le laisse un peu au frais pour le match de l'OM, qui est le moins important... des deux semaines à venir peut-être avec Clermont pour l'avenir du PSG. Il le fait jouer à plein pour Rennes-PSG en demi-finale de Coupe de France puisque le PSG serait à une marche d'une nouvelle participation à la finale. Il le met au frais contre Clermont la semaine prochaine et il le fait jouer contre Barcelone, ça ferait 2 sur 4. Et là vraiment, il y aurait une logique, on va dire, de gestion du joueur tel qu'il l'entend. Voilà. Oui. Maintenant,
oui, non.
Luis Enrique, c'est Luis Enrique et je ne suis absolument pas sûr de ce que j'avance. Mais en tout cas, ça me semblerait assez logique, même si ce serait très regrettable. Et je le dis pour OM-PSG, mais pour la Ligue 1 aussi, parce qu'on est quand même à un moment, Luis Enrique n'a sûrement rien à faire, mais on est à un moment où les droits de la Ligue 1 ne sont pas vendus, où jusqu'à preuve du contraire, la meilleure vitrine de la Ligue 1 s'appelle OM-PSG. Et un OM-PSG sans Kylian Mbappé de surcroît pour sa dernière au Vélodrome sous les couleurs du PSG, ça ferait quand même bizarre.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce dernier point. Le seul match qu'on regarde en Ligue 1, le seul match qui compte du PSG, les seuls matchs, c'est les deux matchs contre l'Olympique de Marseille. Il y a une charge émotionnelle dans ce match-là et qui fait qu'il ne peut pas être considéré comme les autres. Et ce qu'a fait Luis Enrique face à Reims, notamment avant le quart de finale face à Brest, de Coupe de France où il avait donc fait démarrer Mbappé sur le banc. Pour moi, ce serait impensable de le refaire face à Marseille. Et aussi parce que ce match face à l'OM, quelque part, il va aussi lancer la séquence la plus importante de la saison du PSG. Et que le narratif, il ne sera pas le même si Paris perd contre Marseille que s'il gagne ou que s'il est excellent face à l'OM. Aujourd'hui, Paris est quand même dans une séquence qui lui est hyper favorable. Il y a une qualification très facile en quart de finale de la Ligue des Champions. Il y a une demi-finale, ils sont arrivés sans heurts en demi-finale de la Coupe de France. Ils mènent les débats sans aucun problème en Ligue 1. Donc, je décorrèle tout ça des conséquences au classement. Ce que je dis juste, c'est la dynamique qui est entretenue. Paris n'a plus perdu depuis le 7 novembre en Ligue 1. Enfin, même pas en Ligue 1, en tout court, parce que c'était face à l'AC Milan en Ligue des Champions. Paris n'a plus perdu depuis le 7 novembre. En 2024, ils sont invaincus. Donc, le narratif, il est excellent avant un quart de finale de Ligue des Champions. Et on sait à quel point Paris a la fâcheuse tendance à se compliquer la tâche quand ces matchs-là arrivent. Là, tout va bien. Donc, qu'est-ce que t'irais te mettre une épine dans le pied en foutant Kylian Mbappé sur le banc et donc en ôtant, on va dire, 50% de la menace offensive, voire 80% de la menace offensive de ton équipe face à Marseille, qui, on le sait, face au Vélodrome. Alors oui, c'est un Marseille affaibli par les blessures et les absences, mais au Vélodrome, Marseille, ils vont avoir les dents jusqu'à...
Qui arrive le parquet.
Voilà, qui arrive le parquet. Ils vont avoir envie de se faire le PSG. Pourquoi tu te priverais de ton meilleur joueur, d'un joueur qui ne se blesse jamais? Il n'y a pas de raison. Enfin, voilà. Voilà. Donc, moi, je ne comprendrais pas, même si, et je rejoins tout à fait ce que tu as dit, si on suit la logique de Luis Enrique, il ne démarre pas.
Non, mais la logique voudrait, en effet, qu'il joue. Enfin, je veux dire le contraire de ce que j'ai dit, mais si on sort de la logique Luis Enrique, il n'y a aucune raison que Mbappé ne joue pas contre l'OM. Il n'y a aucune raison, même qu'il saute des matchs et voir qu'il sorte à 20 minutes de la fin, hormis quand le score est acquis à 3 jours d'un match hyper important. Est-ce que Paris a besoin de Mbappé pour jouer face à cet OM là?
Non, mais pour gagner,
oui, non, mais je sais, mais Paris avait besoin de lui pour Monaco.
En tout cas,
etc.
Donnes beaucoup plus de chances de perdre en le faisant pas jouer.
Oui, mais il y a plein de fois. Oui, mais là, on a l'impression que c'est pas ce qui fait peur à Luis Enrique.
Oui.
Voilà, parce que puisqu'il le met sur le banc.
Oui, mais si tu veux même perdre face à Reims à domicile, non, mais ça, à Brest, ça, à domicile, d'accord. Ça n'aura jamais le même poids que perdre au Vélodrome.
Je suis d'accord, mais
à quelques jours d'un quart de finale.
Depuis l'arrivée de QSI, on a vu, le PSG a trusté les titres de champion de France, sauf trois avec Montpellier le premier. Et il y a une vraie logique, on va dire, depuis au moins la deuxième année de QSI, c'est qu'il n'y a qu'un match de championnat que les Parisiens jouent à fond tout le temps. C'est l'OM, voilà.
Ah, bah si on suit cette logique-là,
Mais je parle dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que on ricane souvent de l'OM qui ne bat jamais le PSG, hormis en Coupe de France et avec, au Parc des Princes il y a 2 ans, je crois. Mais pas tout simplement pour une raison simple, c'est que le PSG, ces matchs-là, il y a jamais de relâchement. Alors il y a des fois, Marseille a fait des très bons matchs, mais c'est vraiment leur seul match de Ligue des Champions niveau Ligue 1. Voilà. Parce qu'ils savent ce que ça demande pour les supporters. Est-ce que, en revanche, il y a besoin de Mbappé pour garder cet état d'esprit? Je ne suis pas certain.
Ah si, Maxime.
Non, mais encore une fois, mais qu'on me dise que le PSG... vous êtes supporter marseillais, vous voyez le PSG qui s'avance, si Mbappé est sur le banc, vous préférez, ça c'est sûr.
Bah oui.
Mais ça n'empêche que ça n'évitera peut-être pas Marseille de prendre une rousse, eu égard aux absences qu'il y a en défense. Voilà.
Après t'enlèves... Oui. Ça, avec les absences, je suis d'accord, mais tu prends l'équipe type de Marseille versus l'équipe type du PSG sans Kylian Mbappé, il y a un avantage au Paris Saint-Germain, un avantage, mais le delta, il n'est pas le même quand même.
Mais le delta, il n'est jamais le même, de toute façon.
Oui.
Mais sauf que je pense que avec les deux attaquants qui sont actuellement sur le banc, PSG rachète tout l'effectif de l'OM, en gros, pour faire simple. Donc là, c'est sûr qu'il y a une différence. Mais encore une fois, c'est quand même fou qu'on en soit à parler de ça en vrai. Enfin, on en revient à ce débat qu'on a depuis 2 mois, depuis un mois et demi, depuis le moment où Luis Enrique a commencé à prendre entre guillemets Mbappé en grippe. Mbappé, lui, je pense qu'il est résigné dans le sens où c'est la fin, de toute façon ça sert à rien. Il y a gros à gagner, il y a pas grand chose à perdre finalement. Mais en vrai, c'est quand même assez fou qu'on se pose cette question là parce que je veux dire, ok, le joueur s'en va, il est resté 7 ans. À quoi bon de le laisser sur le banc sur des matchs comme ça? Moi, si on m'avait dit il y a même 4 mois.
Oui.
Qu'on ferait ce sujet-là,
oui.
C'est-à-dire qu'il y aurait le risque, parce que là, on n'a pas d'infos, évidemment, personne ne le sait, à part Luis Enrique, mais si on m'avait dit qu'on en serait à poser la question de savoir si Luis Enrique va mettre Mbappé sur le banc, en plus, c'est à 3 jours d'un match de Coupe de France, c'est une finale de Coupe de France, c'est un très gros match, mais c'est un match de Coupe de France,
oui.
Ce n'est pas de la Ligue des Champions.
Oui.
Donc, marche sur la tête.
Mais Enrique peut aussi se réfugier derrière ça, c'est-à-dire ça va être aussi un moyen pour lui, encore une fois, je pense, s'il le met sur le banc, d'affirmer, ça aura beaucoup plus de poids de mettre Mbappé au coup d'envoi sur le banc face à Marseille
ah oui.
que face à Reims, que face à je ne sais plus, enfin, ou ouais. le sortir à la mi-temps face à Monaco, ça aura beaucoup plus de poids parce que ce sera un symbole fort. Donc il peut aussi se cacher derrière. Attendez, on joue contre Rennes quelques jours plus tard.
Oui, ça, mais c'est ce que je donnais dans ma logique.
Voilà.
Ça peut avoir du sens.
Il peut se cacher là derrière pour une nouvelle fois. Et parce qu'on sait qu'il a un ego démesuré, et voilà, affirmer encore voilà son choix, ce qu'il est et ce qu'il veut pour le club.
Et c'est un match qui, enfin, je ne sais pas, je suis pas dans la tête des supporters parisiens, mais je pense que c'est un match qui compte un tout petit peu moins quand même pour certains, surtout les jeunes, je pense.
Oui, oui. Mais où t'as vraiment, quand même.
Ouais, où t'as l'attrait de la Ligue des Champions qui écrase tout. Je pense que pour les supporters de 35, 40, 45 ans, ça reste quand même un grand rendez-vous, et pour eux, c'est un peu difficile à accepter de se dire que Mbappé serait sur le banc. Je pense que pour un supporter de 20 ans du PSG, à mon avis, pas pour tous évidemment, mais je pense que pour certains, voilà, il n'y a qu'une date à cocher, c'est Barcelone. Et que de le mettre sur le banc, ce ne serait pas un drame. Mais encore une fois, c'est, oui, c'est, y a quelque chose d'absurde en fait, à parler de ça et d'imaginer que Luis Enrique, pour le match le plus important médiatiquement de la Ligue 1, et même de son club, on va dire, en championnat, puisse mettre Mbappé sur le banc.
Allez, on va passer au deuxième sujet, les Jeux Olympiques. Maxime, parce qu'il y a un gros dossier Jeux Olympiques.
Ouais.
Les Jeux Olympiques avec le casse-tête qui s'annonce pour Thierry Henry. Quelle équipe espoir ou quelle équipe de France Olympique on aura à Paris cet été? On sait que le Real a déjà mis les barbelés. Cette semaine, c'est Rennes qui, à son tour, par la voix de son directeur sportif, Florian Maurice, a fait passer un message. On ne peut pas se déshabiller pour habiller l'équipe de France espoir. C'est difficile pour nous. Voilà. Et l'équipe de France féminine aussi, qui n'est pas avarde également en polémique, le mot est un petit peu fort, mais...
Non, mais de désordre, on va dire.
Voilà, de désordre, mais... avec Hervé Renard, qui, cette semaine, en conférence de presse, a assuré, il a confirmé qu'il avait d'autres projets pour la suite. J'ai dans un coin de ma tête la Coupe du Monde 2026 dans le foot masculin. J'espère que ce sera ma troisième Coupe du Monde en tant que sélectionneur pour représenter un pays peut-être différent ou pas. Voilà, donc Hervé Renard qui rêve déjà d'une nouvelle nation. Thierry Henry qui est mal barré pour faire son équipe des 23. Ça annonce mal ces JO pour les équipes de France de football, Maxime.
Bah, c'est sûr qu'il y a quelques mois des Jeux Olympiques, on espérait un peu mieux. D'ailleurs, je tiens à dire que Hervé Renard, quand il dit qu'il parle d'un pays différent ou pas, est-ce qu'il met la France dans les sélections masculines qui peut entraîner? Non, parce qu'il faut lui dire, je pense qu'il y aura sûrement quelqu'un à sa place. Et si ce n'est pas Deschamps, ce sera un autre qu'on voit à peu près venir. Non, c'était pas dans les plans de la Fédé, je pense. Moi, je reviens, encore une fois, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, on verra. Moi, je trouve que Hervé Renard a été avant tout un choix, à mes yeux, médiatique, pour redorer
stratégique,
l'image,
presque.
Stratégique. À un moment, ce qui compte, c'est juste de faire un choix sportif. Alors peut-être qu'il va réussir ce que les autres n'ont pas réussi avec l'équipe de France. Mais je trouve que là, la tournure est un peu... Il y a une conf de presse où, en gros, il explique qu'il va partir, qu'il vise... En fait, ça donne l'impression que la conf de presse de liste sert à faire sa pub.
Oui, c'est
ça. De certaine manière. Après, on lui pose des questions, il y répond. Mais on pourrait aussi dire que s'il n'avait pas ouvert le champ à ce sujet-là, il n'y aurait pas eu des questions comme ça, on aurait parlé de l'équipe de France féminine. Donc je trouve que ça phagocyte un peu beaucoup. Ça me fait penser un peu aux confs de Mbappé quand il arrive en équipe de France, où on ne parle que de lui, on ne parle pas de l'équipe. Et justement, la deuxième conf de presse de l'équipe de France la semaine dernière, voilà. Mais la deuxième conf de presse de Mbappé était mieux parce que là, comme les sujets individuels avaient été sortis dès la première, ça a parlé beaucoup plus de l'équipe. Voilà. Là, en l'occurrence, on parle d'Hervé Renard autant que de l'équipe, et j'avoue que ça me dérange un peu. Henri, lui, il ne parle pas de lui, mais le problème, c'est que lui, il a des soucis avec ses joueurs potentiels, et tout Henri qu'il est, on imaginait, oui, le cher Henri, ça va marcher, etc. Bah, résultat, les clubs, ils n'en ont rien à faire. Enfin, les clubs, pas tous. Parce qu'on sait déjà que Lens a annoncé qu'il y avait des Lensois qui allaient aux Jeux Olympiques, ils les laisseraient partir. Lille, c'était un peu pareil. Donc voilà, il y a quand même des clubs qui gardent un peu ce...
L'union sacrée, quoi.
L'union sacrée. Et je trouve quand même, encore une fois, que les Jeux, ça mérite un peu mieux. Surtout les Jeux de Paris, voilà. Il y a de la symbolique. À un moment, le symbole, ça compte aussi, tout simplement. Et je trouve que les clubs, là, c'est des calculs qui ne redorent pas vraiment l'image du football français. Je trouve que l'image, déjà, du football français, on en parlera dans le troisième sujet, elle est quand même un peu dévalorisée, pas terrible par rapport à ce qu'on voit. Là, Florian Maurice, moi, ce qui me fait mal avec Florian Maurice, c'est que c'est un joueur qui a joué les JO, qui a été bon aux JO, qui a eu sa première sélection un mois après en équipe de France parce que, justement, il avait été bon à Atlanta. Et le type, là, bah, après, il est dans son rôle, hein. Bah non, on ne fait même pas de sentiments. On pourrait très bien se mettre d'accord à dire Et ça me semblerait complètement valable, trouver un gentleman agreement, de dire Henry n'a pas le droit de piocher plus de 2 joueurs par club. Pourquoi pas ? Et je pense que ça se tiendrait à peu près. Là, on ferme la porte. Je trouve que c'est assez regrettable, voire même détestable.
Je rappelle juste une chose, c'est que Florent Maurice, elle n'en est pas à son coup d'essai, puisque pour les JO de Tokyo, souvenez-vous de l'équipe de France Espoir, la star à l'époque, elle s'appelait Eduardo Camavinga. Elle jouait au Stade Rennais. Bah, elle n'a pas fait les JO de Tokyo. Alors, ce n'est pas qu'à cause de lui qu'on s'est crashé lamentablement à Tokyo, donnant l'image d'une sélection désunie et surtout pas soutenue par ses clubs. Mais Rennes a retenu Camavinga. L'équipe de France s'est fait sortir au premier tour. Et Eduardo Camavinga quitte Rennes au mois d'août. Voilà. Donc, il n'en est pas à son coup d'essai, Florian Maurice. Et il avait justifié ça par un barrage de Ligue Europa Conférence du Stade Rennais. Après, tu l'as dit, il est dans son rôle, mais à un moment, l'intérêt supérieur de la nation, l'équipe de France. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils se rejoignent ces deux sujets, parce qu'à un moment, l'équipe de France, ça doit tout écraser. Autant pour Florian Maurice, qui est directeur sportif d'un club français pour des JO en France, à un moment, il doit mettre de l'eau dans son vin. Hervé Renard, c'est encore le niveau d'au-dessus, parce que il arrive et il sert finalement de l'équipe de France, il fait de l'équipe de France un club comme un autre. C'est-à-dire que pour faire sa pub, c'est une étape pour aller ailleurs. Il va jouer quand même les JO, donc c'est la plus grosse compète du foot féminin avec la Coupe du Monde féminine qui a pris de l'ampleur ces dernières années, mais voilà, c'est l'une des deux plus grosses compètes. Et il dit, dans un coin de ma tête, je pense au foot masculin et je pense aussi à une autre sélection. Donc là, il crache à la fois sur l'équipe de France, mais il crache aussi sur le foot féminin. Je ne sais pas si on se rend compte qu'il est sélectionneur de l'équipe de France féminine, donc le plus haut grade pour un entraîneur de foot féminin. Et il dit non, mais moi, c'est fini après les JO parce que je repars dans le foot masculin et avec une autre sélection. Est-ce qu'on imaginerait un seul instant un sélectionneur de foot masculin dire ça ? Je ne sais pas, un sélectionneur de l'Angleterre ou de l'Espagne dire non, mais moi, ça va bien. L'Espagne, c'est jusque-là. Après, je vais aller ailleurs.
Non, mais.
Personne ne se permettrait ça. Et. Encore une fois, ça rejoint son épisode de la Côte d'Ivoire où il avait quand même forcé pour aller rejoindre une autre sélection pendant son mandat. Là, ça fait un peu beaucoup. Et ça, c'est vrai que ça jette un voile, une ombre sur le choix d'Hervé Renard. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est trop gros pour cette équipe-là, que son ego est trop gros, que lui est trop gros. Et
qu'il ne serait jamais venu s'il n'y avait pas eu les JO.
Et que si ça se passe mal, et la critique, elle est toute trouvée. Et là, il y a des gens qui vont tomber sur la FFF. Et pour le coup, a raison.
Y a une immense hypocrisie, de toute façon, autour des Jeux Olympiques. C'est ça qui est puté avec le football. Et là, je parle masculin. Parce que féminin, en fait, les Jeux Olympiques en football féminin ont une importance accrue.
Oui.
Ça, il n'y a pas de problème en football féminin. Masculin, c'est récent. C'est accentué par le fait que ce soit Paris. Mais c'est terrible parce que tout le monde s'est dit il y a 3 ans après le fiasco. Moi, honnêtement, je faisais partie de ceux qui disaient que c'était sûr que ils allaient mettre le doigt sur la couture et faire l'effort. Voilà. Mais en fait, non, parce qu'ils sont toujours leurs intérêts, leurs petits intérêts. Tu parlais de 2021 avec un barrage de Coupe d'Europe.
Ouais. De Ligue Europa Conférence.
Mais là, tout le drame du football français, il est là. C'est-à-dire que, s'ils ne sont pas foutus de passer un barrage de Ligue Europa Conférence sans Camavinga, c'est que le problème, il est sans doute un peu ailleurs. Et surtout, il faut aller voir la suite de la Coupe d'Europe après, ce que ça donne. C'est aussi ça, des fois. C'est de se dire, OK, c'est bien de faire le barrage, mais si c'est pour tomber 2 tours après ou au premier tour, ça ne sert à rien. Et voilà, et je trouve qu'on est dans le calcul d'épicier. Et ce qui m'agace un peu...
Et Camavinga qui se barrait 2 semaines après aussi.
Hein. Oui, mais comme ça, ils ne l'ont pas battu. Ils ne l'ont pas blessé. L'actif, voilà, parce que ça parle comme des entreprises, mais des entreprises mal gérées à chaque fois. Derrière ça, on se retrouve comme des pitres au JO. La compétition est absolument pas respectée et je trouve que ça, c'est triste. On a beau penser ce qu'on veut du foot au JO, moi je suis le premier à dire que le foot au JO c'est un non-événement. N'empêche que quand on est qualifié, la moindre des choses c'est de le jouer correctement
et à fond.
On n'était pas allé au JO depuis 96, on s'en plaignait tous les 4 ans, on est nul, on n'y arrive pas, nanana, où va le football français, etc. Les jeunes. La fois on y va, on n'est pas capable de jouer le jeu. De toute façon, les clubs ont un problème, de toute manière, avec les équipes nationales, avec toutes les trêves internationales, même quand c'est des dates FIFA. Donc voilà, là, c'est juste le point culminant de tout ça. Et ce qui me dérange aussi, et là, ce n'est pas les clubs, c'est la FIFA qui vient fanfaronner lors du tirage au sort. Je ne sais pas ce que vient faire Gianni Infantino pour vendre le tournoi olympique, qui n'est pas dans le calendrier FIFA. Enfin, vous vous rendez compte de l'absurdité ? C'est comme si moi, je viens vendre... un article, une vidéo, ce que vous voulez, de quelque chose que je ne soutiens pas et je n'aide pas. Pourquoi la FIFA ne pousse pas à mettre les JO dans le calendrier? Je n'en sais rien. Enfin, si, je le sais, parce qu'elle a ses propres compétitions. Elle a notamment la Coupe du Monde des clubs qui arrive en 2025.
Puis la Coupe du Monde des jeunes, ces trucs-là.
Donc voilà, mais je ne comprends pas vraiment que la FIFA... Moi, je serais la FIFA, je ne m'associerais absolument pas à ça parce que, justement, le message, il est complètement contradictoire. Ça gêne personne, mais je pense qu'il y a bien longtemps que ce genre de choses ne gêne plus grand monde à la FIFA.
Alors, Maxime est très énervé, on le voit. D'ailleurs, allez voir la vidéo, il est en train de devenir de plus en plus rouge, comme il peut l'être quand la moutarde lui monte au nez.
Non, mais là, la lumière est trop forte.
C'est vrai. Moi, je te vois en vrai. Et je peux vous dire, voir en vrai, Maxime, c'est une expérience. C'est une vraie expérience. Mais alors, le troisième sujet, les gars, là, c'est même plus énervé qu'il va être. Là, c'est...
Non.
Moi, j'ai l'impression que là, je suis dans cette émission pour appuyer sur le bouton. Je lance les sujets, je balance des petits trucs, FIFA, Espoir, JO, et Maxime derrière, il sort le bazooka. Donc là, le troisième sujet, ça va être le point culminant de tout ça, avec une interview du président de la DNCG, qu'il a donnée jeudi.
Ouais, c'est un peu son interview annuelle.
Où il fait en gros un point de passage de l'état des finances des clubs français, et de la Ligue 1, hein, si je comprends bien. Et ça énerve Maxime. Et qui nous dit... Donc dans l'équipe, le coût des effectifs des clubs français est trop important par rapport à leur performance.
Étonnant, non ?
Étonnant. Et ça, Maxime, ça passe pas.
Ben non, ça passe pas parce que non, mais le football français vit au-dessus de ses moyens constamment. Et là, en plus, le football français arrive à un moment où il ne sait pas de quoi demain sera fait, hormis peut-être le Paris Saint-Germain qui, si jamais beIN Sport rachète les droits de la Ligue 1, mettra dans un pot commun ce que la Ligue lui rendra via le PSG, donc ce qui est plutôt confortable. Mais pour le reste, c'est une catastrophe, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'on a une Ligue 1 toujours plus dispendieuse, parce qu'il y a eu l'argent de CVC qui est rentré. Au lieu d'assainir les finances, ça a servi à réinvestir, et surtout à réinvestir comment, je ne sais pas, mais à mon avis, pas très bien. C'est intéressant ce que raconte Jean-Marc Miquelard dans l'équipe, président de la DNCG, donc, parce qu'il explique que les actionnaires injectent beaucoup, beaucoup de millions d'euros chaque année. Et pour le coup, le déficit n'est jamais résorbé, ce qui veut dire qu'ils dépensent toujours un peu plus. J'ai vu un chiffre toujours dans l'équipe la semaine dernière qui m'a un peu...
Énervé.
Non, mais fasciné, parce que c'est Lens. Pourtant, Lens, c'est un club quand même, bon, je pense qu'il est plutôt sain, qui fait le job, qui, j'ai l'impression, ne dépense pas l'argent qu'il n'a pas. Mais quand il a été question d'acheter... Alors, Openda est parti cet été, mais quand il a été question d'acheter leur remplaçant, Wai, à Montpellier, Lens a mis 35 millions. Je ne crois pas que ça me choque, parce qu'après tout, c'est un prospect. Ils disent qu'ils vont pouvoir le revendre derrière. Il y avait de l'argent à investir, et puis voilà. Mais ce qui me dérange un peu plus, c'est que Eli Wai, aujourd'hui, a le plus gros salaire de Lens à égalité avec Brice Samba. Et là, pour moi, ça ne va pas. Parce que tu ne peux pas donner autant à un jeune joueur qu'à ton capitaine.
Qu'il y a des mecs qui t'ont qualifié pour la
Ligue des Champions. Qui ont fait leur preuve. Après tout, Wai, il a du talent, ça se voit. Alors, cette année, c'est un peu difficile, mais après tout, c'est normal. Mais à un moment, tu ne peux pas en faire ton joueur. Et en fait, quand tu décides de faire des choses comme ça, tu ne t'étonnes pas que le reste aille mal. C'est-à-dire que surpayé, pour moi, il est surpayé aujourd'hui. Il faut mettre des salaires progressifs dans les clubs de Ligue 1. Au bout d'un an, t'attends. Au bout de deux ans, t'attends. Au bout de trois ans, t'attends. Et ce sera d'autant plus vertueux que le joueur, en général, au bout de deux ans, il est parti. C'est un peu comme les contrats NBA où la dernière année, il a mieux payé. Mais si vous sortez de votre contrat, vous pouvez aller vous vendre ailleurs. Alors, ce n'est pas exactement le même système des transferts, évidemment. Mais n'empêche que c'est une manière de faire des économies. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un football avec des masses salariales, c'est ce que dit le président de la DNCG. En gros, le point rapporté en Coupe d'Europe coûte beaucoup plus cher, et c'est intéressant ce qu'il dit, en France qu'à l'étranger.
Oui, alors ça faut expliquer, c'est le ratio masse salariale
point récolté.
Par point récolté en Coupe d'Europe.
Voilà. Donc,
et que celui donc de un point en France coûte 17,3 millions d'euros, alors que la moyenne Coupe d'Europe c'est 11,5 millions d'euros, et que bah, par exemple l'Italie et même l'Angleterre sont en dessous de la France. Donc c'est vrai que ça, c'est dément. C'est-à-dire que non seulement on paye beaucoup, mais en plus il n'y a pas de retour sur investissement en termes de compétitivité.
Et je suis toujours en train de regretter ça aussi, c'est-à-dire qu'on budgétise sur une place à venir en fin de saison. Évidemment, il n'y a rien de plus sablonneux que le sol sportif, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop où on va. Et il explique, le président de la DNCG, dans l'interview, que l'écart entre le résultat d'exploitation budgété la saison dernière et réel a été de 188 millions d'euros, soit 27% d'écart. Et ouais. Il explique, je ne connais pas beaucoup d'industries où tels écarts seraient tolérés sans conséquence. Mais pourtant, c'est ce qui est toléré en France. Et j'ai envie de lui dire, que fait la police? Que fait la DNCG?
Oui.
C'est-à-dire que c'est aussi à lui, plutôt que de dire, on va encadrer, attention, on met une tape sur les doigts. Prenez le cas de Lyon. Ils ont tapé sur Lyon l'été dernier pour des raisons pas très claires quand même. Bon, même s'il y avait peu de... On sent que l'influence de Jean-Michel Aulas avait peut-être joué dans la décision. Et que si Jean-Michel Aulas justement avait été là, il n'aurait pas tapé dessus. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la DNCG, si elle est indépendante, se devrait d'être complètement étanche. Et c'est-à-dire qu'un déficit est un déficit. Basta. D'ailleurs, si un nouvel investisseur, on dit, on donne 3 ans pour investir plus parce qu'il faut lancer la machine, ok. Mais en fait, je pense qu'il y a un peu de perméabilité dans les décisions qui font qu'on se retrouve avec des clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et ce discours-là, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, c'est pas d'avant-hier. Ça fait 20 ans que je vois des clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui vivent grâce à des actionnaires qui remettent la main au pot constamment.
Moi, ce qui me pose problème, c'est l'équipe qui a dévoilé, comme chaque année, son enquête sur les salaires de la Ligue 1. C'est pas que Mbappé gagne 6 millions d'euros. Parce qu'au final, Mbappé, voilà, quand on voit ce qu'il fait tous les week-ends, mais c'est les trous monumentaux qu'il peut y avoir dans les effectifs des mecs qui sont... Quand je vois, pour prendre Strasbourg, un Perchic qui a 130 000 euros par mois, qui a joué 87 minutes depuis le début de l'année. Quand je vois un Umtiti ou un Ounas qui sont à 185 millions d'euros à Lille. Tu as parlé de Wai, Enzo Lefebvre à 200 000 euros à Rennes, même Kalimuendo à 220 000. Enfin, voilà. Moi, c'est ces joueurs-là qui ne sont pas des joueurs exceptionnels, c'est-à-dire qu'ils vont... te portent pas une équipe à eux tout seuls, qui ne font pas partie du top 10, top 20 des joueurs de Ligue 1 et qui te flinguent finalement des finances. Mais en fait, le problème de la Ligue 1, c'est qu'elle est incapable d'être prudente. Elle est incapable d'être prudente. La Ligue 1 est le deuxième club le plus dépensier sur les mercato, sur les derniers mercato. Ils ont dépensé 2 fois plus que l'Espagne.
Ça, c'est surréaliste.
Est-ce que ça se voit en Coupe d'Europe? Est-ce que ça se voit dans les résultats des clubs français?
Attends, on a trois clubs en quart.
J'attends de voir quand même.
Oui, bah oui. Non,
qui sera qui sera en finale. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là qui font dire qu'effectivement, on a une Ligue 1 qui, tu le disais, vit au-dessus de ses moyens et qui surtout ne sait pas se tempérer, ne sait pas se rationaliser. Alors à part, je crois qu'il y a Clermont qui a une... Voilà, ils sont à 60 000 max. Brest qui a 80 000 aussi et qui montre qu'on peut avoir un modèle plutôt vertueux et en ayant des résultats. Mais sinon, le salary cap, ils sont incapables de le gérer. Un bon exemple, on en parlait avant l'émission, c'est que Saint-Etienne a pendant longtemps eu un salary cap. Donc, ils donnaient pas plus de 100 000 euros à leurs joueurs par mois. Et ça tenait plutôt bien. Et ça tenait les finances des Verts qui ont souvent, pour le coup, été dans le vert à la fin de l'année. Et ça marchait bien. Et puis, à un moment, le club s'est un peu effondré au niveau des résultats. On a fait venir Mvilla de Buchy pour les faire venir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les salaires par 2. Il n'y a eu plus de salary cap. Et Saint-Etienne s'est complètement vautré dans les années suivantes parce qu'il a payé ces salaires-là qui n'ont jamais pu être épongés. Et aujourd'hui, Saint-Etienne est en Ligue 2. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi d'autres de clubs qui ont les yeux plus gros que leur ventre et qui finissent par se faire avaler.
Mais c'est aussi des clubs aussi qui cèdent à l'affect. Saint-Etienne, ça me fait penser à ça. C'est un moment où il y a du danger, on ne veut pas descendre, etc. Ouais. Il n'y a pas d'entreprise qui ferait ça. Imaginez une entreprise qui est en péril, je ne vais pas en citer, mais une grande entreprise du CAC 40 et qui dit « Allons multiplier les salaires ». Pour essayer de sauver l'entreprise, déjà, ça ne marche pas. Alors, vous allez me dire, le talent n'est pas exactement le même. C'est pas... Trouver des talents en football, ça peut aider. Et c'est peut-être un impact plus direct sur le résultat. Mais n'empêche que ça n'a pas marché. Tu parlais d'Umtiti tout à l'heure. C'est un cas intéressant, je trouve, parce qu'Umtiti est champion du monde. OK, donc normalement, il aurait une valeur XXL. Sauf que c'est un joueur, depuis qu'il est champion du monde, qui ne joue plus.
Qui a fait une bonne saison.
À Lecce. À quel moment il faut le payer ce prix-là?
180 000 par an.
Alors, avec tous les warnings qu'il y a, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai rien contre Umtiti. Je suis vraiment même désolé.
Et Tolisso à 400 000 euros à Lyon aussi.
Désolé qu'il soit dans cet état depuis la Coupe du Monde, voilà. Mais à un moment, vous êtes un club, vous dites « Ok, on veut bien que tu viennes, mais ça sera à ce prix-là parce qu'on sait qu'il y a des warnings autour de toi, voilà. » tout simplement. À partir du moment où les clubs sont incapables de faire ça, bah, il ne faut pas s'étonner. Et l'autre problème aussi avec ça, c'est quelles sont les rentrées d'argent des clubs? C'est un, les droits TV, alors là pour le coup, ouais. Voilà. Et les transferts.
C'est affiché, ouais.
C'est-à-dire que les transferts, il n'y a rien de plus sablonneux que les transferts. C'est-à-dire qu'un joueur, un même joueur pourrait avoir quatre prix différents parce qu'il n'y a aucune règle. On peut me faire des estimations de transfert sur des sites bien connus. Ça ne veut rien dire. Voilà. Parce que c'est juste deux personnes qui se rencontrent et qui citent un prix. Donc voilà. Les droits TV, normalement, ça rentre. Sauf que là, ça ne rentre pas et que ça va rentrer, mais peu. Et surtout, moins que ça aurait dû être, puisqu'il va falloir rendre déjà 13% à CVC qui a les droits sur la Ligue 1 vie, plus un petit bonus pour les années précédentes. Donc je crois que ça devait être autour de 17-18%. Donc l'année prochaine, l'été prochain, la Ligue 1 a priori aura moins d'argent. Et je suis curieux de voir s'ils dépenseront moins. S'ils dépensent plus, encore une fois, c'est qu'il y a un vrai problème. Ça voudrait dire qu'ils ont dépensé au-dessus de leurs moyens et qu'ils continueront. Mais malheureusement, je pense que ce sera le cas parce que le football français est incapable de se réguler. Et surtout, c'est un cercle vicieux dans le sens où on se dit « Non mais pour avoir des meilleurs résultats, il faut dépenser parce qu'il faut des meilleurs joueurs. » Sauf qu'ils dépensent plus, mais ils ne ramènent pas forcément des meilleurs joueurs et ça ne change pas la culture européenne. Le président de la DNCG a raison. L'amélioration des résultats sportifs en Coupe d'Europe, c'est aussi là. C'est une forme de diversification. Vous ramenez de l'argent ailleurs que sur vos contenus domestiques ou vos transferts. Cette année, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas sur trois quarts de finale, une année précise, que l'on peut dire que le football français va mieux.
J'ai une question pour toi, Maxime.
Oui.
Tu utilisais deux fois un mot que tu n'avais jamais utilisé.
Sablonneux.
Ouais, sablonneux.
Alors, sache que je savais, en fait, je pensais au château de cartes, etc., ouais, château de sable, clac, clac. Ouais. Et en fait, je me suis un peu... mais je suis bien retombé sur mes pattes quand même. Puis on comprend l'image.
On comprend l'image.
Un sol sablonneux, voilà, c'est pas très stable.
Mais c'est dommage que ce soit intervenu à deux reprises, tu vois.
Oui, bah oui.
Une fois, ça aurait été parfait.
C'est ça,
là,
voilà.
C'était le trait de génie.
La deuxième fois, c'était.
Deux fois, du coup, c'est le mec un peu poussif qui dit bon, je vais réutiliser le mot. Voilà. C'est une petite remarque que je te fais.
Non, mais
sympathie.
Mais c'est important de faire les débriefs.
Ouais, on fait un petit débrief. C'est sympathique, tu vois.
Et je sais pas si toi, c'est comme ça, mais j'arrive à voir des fois.
Quand c'est pas bon.
Quand t'es perdu un peu.
Ah oui, bah bien sûr.
Et je sens. Et ça nous arrive dans ces émissions. On est de chair et d'os.
Bien sûr. Comme ça, en fait, je pense que les gens se disent, en nous écoutant, putain, les super-héros, c'est incroyable ce qu'ils font. Parce qu'on donne le change et parce que finalement, dans l'impro, on est bon. Mais parfois, c'est vrai ça tient un fil.
Et des fois, ça tient un fil. Des fois, il est très, très ténu.
Ouais.
Alors moi, pour me rassurer, je réécoute des fois. Quand je me dis, là, je me suis perdu, honnêtement, 90...
Là, quand t'es parti dans les 27% de 8% de déficit machin, je me suis dit, là déjà, si t'as pas fait des études supérieures, t'arrêtes le podcast.
Non, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'ils budgètent.
Non, mais ne repars pas.
Ils font une prévision jamais tenue et ils dépensent 27% plus. Voilà, j'aurais dû le dire comme ça.
Voilà, t'aurais dû le dire comme ça parce qu'à un moment, t'es parti dans une explication.
Mais j'ai vu à ton regard qu'il y avait de l'incertitude.
Je me suis dit, là, je sais pas où il part, on va essayer de le rattraper, puis non. Et puis t'enchaîner le deuxième sablonneux, je me suis dit, là, on va le laisser là où il est.
Si vous arrivez, si vous avez fait avance rapide dans l'émission, déjà, je comprends pas pourquoi vous êtes arrivé là.
Ouais.
Vous vous dites, ils sont en train de faire leur débrief d'émission, et ce n'est pas enregistré, en fait, c'est une erreur. Ben non, on est toujours en direct, on est toujours enregistré, ouais. Et on fait exprès de faire ce petit débrief de fin d'émission.
Ben, on devrait le faire à chaque fois, tu vois.
On doit le faire à chaque fois.
Là, ouais. Non, mais c'était
faut
pas
être
mal.
Honnête avec nous-mêmes.
Ouais, c'était
et il y a des fois, c'est. Cette émission-là, je la mettrais dans la moyenne, on va dire.
Ouais, moi aussi. Pas exceptionnel, mais pas nul non plus.
Il y en a eu une il y a 2-3 semaines qui était pas mal du tout.
Ouais. On a tenu nos sujets, je trouve, globalement.
On a tenu nos sujets.
Mais. Voilà. Tu vois, les points forts, les points faibles. Moi, j'ai bien aimé Sablonneux. Vraiment, j'ai bien aimé Sablonneux.
Ouais, mais pas deux fois.
Mais pas deux fois. C'est le problème. Une fois Sablonneux, c'était parfait. Deux fois, c'est une fois de trop. Mais bon, c'est déjà bien.
Mais en fait, c'est mouvant, genre, il y a sable mouvant. Sable mouvant, tu vois. Bon, il y avait l'idée, mais je pense vous avez compris.
Ouais, vous avez compris. Bon, on a terminé.
On a terminé. Adrien, c'est bon pour ton call? Ah, c'est juste.
Combien de temps on a tenu?
Non, on a fait 40 minutes après.
Oh, c'est
40
pas mal,
minutes, ça va.
C'est pas mal.
On repart pour 20 minutes.
On peut repartir pour 20 minutes. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous noter, à mettre des étoiles sur les plateformes de podcast, à laisser des petits messages aussi.
Merci à Marco Popovic qui était au graphisme.
Merci à Adrien Ayot qui était pressé. Et rendez-vous la semaine prochaine.
Salut.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.